France Info.
Oui, c'est le secrétaire général de la CGT qui est avec nous jusqu'à 9h sur France Info, Renaud Nelly.
Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
C'est donc aujourd'hui une nouvelle journée d'action, de mobilisation en faveur du pouvoir d'achat là, que vous avez initiée. Lors de l'une des dernières journées de mobilisation, début février, on avait vu des cortèges communs avec les Gilets jaunes. Vous aviez appelé à manifester avec eux en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes, ce sont toujours pour vous des alliés, des partenaires ?
Dans le générique des Gilets jaunes, ça rassemble beaucoup de choses. Il y a effectivement, depuis plus du 5 février, d'ailleurs depuis au moins 2 mois, des citoyens avec un gilet jaune qui viennent nous rencontrer, qui viennent débattre avec nous et qui participent à des manifestations. On organise ensemble des manifestations. Donc, on le dit depuis le début, les revendications pour une grande part des gilets jaunes sont communes avec celles de la CGT et des syndicats, pouvoir d'achat, justice fiscale, services publics. Donc évidemment, il y aura dans les cortèges aujourd'hui des gens avec des gilets jaunes, d'autres avec des gilets roses. J'ai entendu qu'il y avait des stylos rouges. Je voyais, c'est multicolore nos manifestations.
Est-ce que ce qui est devenu le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire une forme de radicalisation également, est toujours compatible avec la CGT ?
Non, mais je pense qu'il ne faut pas généraliser. J'entendais les mêmes commentaires en 2016. Vous vous souvenez de 2016 ?
Au moment de la loi travail ?
Exactement. Il y avait les mêmes commentaires. Et les mêmes qui nous
font... Il n'y avait pas le même degré de violence, Monsieur Martinez.
Écoutez, évidemment, ce qui s'est passé aux Champs-Élysées samedi est inacceptable. Mais j'ai vu des images aussi, et j'ai entendu des commentaires aussi, sur... vous vous souvenez de l'hôpital Necker ? Mm-hmm. C'est les mêmes qui nous faisaient la leçon, d'ailleurs, les mêmes politiques.
L'hôpital Necker, c'était quelques individus... Un jour de manifestation, là on a des violences qui se répètent week-end après week-end.
Mais je veux dire que nous avons alerté depuis plus de 2 ans sur la situation à l'extérieur des manifestations. Et dire que tous les gilets jaunes, tous les manifestants sont des casseurs, c'est proprement scandaleux. Et c'est ce qu'essaye de, c'est sur ce terrain-là qu'essaye de venir le gouvernement.
Précisément, hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est revenu chez nos confrères de LCI sur les événements, les violences qui se sont déroulées sur les Champs-Élysées samedi.
Il y avait samedi à Paris, sur les Champs-Élysées, 10 000 casseurs. Peut-être 1 500 à 2 000 Black Blocs organisés comme tels. Mais ceux qui sont venus manifester sont évidemment complices de cela. Et vous l'avez vu, y compris
ces salles. Tous ceux qui sont venus manifester.
Mais qui participent à ce moment d'émeute, parce que ça n'est plus une manifestation, qui reste sur place. Il n'y avait pas de gilets jaunes samedi sur les Champs-Élysées. Il y avait des gens qui savaient qu'ils participaient à une émeute.
Pour vous, Philippe Martinez, samedi sur les Champs-Élysées, il y avait des gilets jaunes pacifiques ?
Bien sûr, et qui sont venus d'ailleurs rejoindre. J'étais à la manifestation l'après-midi pour le climat. Ils sont revenus rejoindre la manifestation. Je vous dis, c'est des choses qu'on entend depuis. Repasser, si vous avez le temps, le discours de Manuel Valls en 2016 à l'Assemblée nationale. C'est les mêmes propos.
Mais est-ce que le fait d'être présent toute la journée sur les Champs-Élysées samedi, quand on voit le déchaînement de violence qu'il y a eu, c'est pas aussi faire preuve d'une forme de complicité, même si on ne participe pas soi-même à ces violences ?
Écoutez, il y a un mouvement social qui est là, d'autres manifestations, il y a eu en marge des manifestations des choses qui se sont passées. C'est absolument inacceptable, parce qu'on met y compris la vie de d'autres personnes en danger. Mais généraliser et essayer de placer la mobilisation sociale, les problèmes sociaux sur le terrain des violences et uniquement sur le terrain des violences, je pense que c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement, y compris en restreignant la loi qui nous autorise à manifester. C'est pas la première fois, je vous le dis. Là aussi, les mêmes. Castaner était à l'époque dans la majorité de Monsieur Hollande. Il tenait ensemble les mêmes propos. Réécoutez.
Alors justement, on va réécouter non pas les propos de Christophe Castaner, mais ceux du Premier ministre hier soir aux 20h de France 2, qui justifie donc ces interdictions localisées de manifester qui pourront être décidées dans certaines villes s'il y a des casseurs, a précisé le Premier ministre.
Oui.
Le droit de manifester en France, il est défendu. Je ne veux pas revenir sur le droit de manifester en aucun cas. Je veux dire que les manifestants qui viennent simplement pour se livrer à des actes de violence, à des actes de pillage et à des actes criminels doivent être sanctionnés et ne doivent pas être laissés impunis. Notre objectif, c'est de trouver les moyens d'organisation pour éviter cela.
Le droit de manifester est respecté, vous êtes rassuré ?
Non. Le droit de manifester est maintenant remis en cause. Mais comment est remis en cause ? Par la loi anti-casseurs qui vient d'être adoptée.
Qui n'est pas encore appliquée ?
Mais qui vient d'être adoptée, et par les nouvelles mesures que précise le gouvernement.
Philippe Martinez, mais ce n'est pas les casseurs qui menacent la liberté de manifester ?
Il y a des casseurs, oui. Personne ne peut le contester.
Vous dites que c'est le gouvernement qui remet en cause le droit et la liberté de manifester. Les casseurs, eux, ne menacent pas cette liberté de manifester.
Comment se fait-il? Moi, en 4 ans, j'ai croisé 5 ministres de l'Intérieur. Ils ont tous eu un courrier, ou 2 ou 3 de ma part, concernant des situations en marge des manifestations. Jamais de réponse. Et toujours la même rengaine, il faut restreindre le droit de manifester. Donc la question, elle est posée aux ministres de l'Intérieur successifs, aux préfets, à ceux, parce qu'on entend aussi des policiers qui disent « mais on n'a pas d'ordre, on a des contre-ordres, etc. »
Donc vous voulez dire que le pouvoir est complice des casseurs, des black blocs, qu'il les tolère ?
Je n'ai pas dit ça.
Vous dites que vous alertez le pouvoir et qu'il ne vous répond pas.
Voilà, c'est ce que j'ai dit, et pas celui actuel, depuis... maintenant, 3 ans.
Il y a une autre mesure qui a été annoncée hier par le Premier ministre. Il s'agit d'utiliser ce qu'on appelle des marqueurs chimiques qui pourraient être ajoutés à l'eau des canons à eau ou au gaz, des gaz lacrymogènes. On va en expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le principe. Moi, je l'ai découvert hier soir,
premier,
pour tout vous dire. C'est un marqueur chimique qui reste pendant des mois sur les vêtements, pendant des semaines sur la peau, et qui permet d'identifier des semaines après ou des mois après des gens qui ont participé à une manifestation illégale. Ça vous inquiète ou pas?
Mais bien sûr, parce que je vais en avoir des marqueurs sur la peau.
Ah, vous êtes plein de marqueurs.
Non, mais vous voyez comment on va juger de qui participait à une manifestation à l'intérieur des cortèges ou pas. Tous les manifestants cet après-midi, avec une telle mesure, vont être fichés, marqués. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pardonnez-moi de cette expression, vous seriez un marqueur ADN sur patte, vous, pour avoir manifesté.
J'accepte cette expression, ça me parle bien.
Mais vous seriez marqué s'il y a des violences, s'il y a des canons à eau qui sont utilisés contre les manifestants. Ça va être le cas cet après-midi, d'après vous ?
Je n'en sais rien. Nous y allons pour manifester, nos cortèges sont sécurisés, encadré. Ce qui se passe à côté, c'est du ressort de la police. Et je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre, vous l'avez compris.
Vous demandez au gouvernement de renoncer à cette mesure spécifique ?
On demande au gouvernement, premièrement, de régler les problèmes en marge des manifestations. Mais ce que devrait faire le gouvernement, c'est répondre aux questions sociales. Ça, c'est la première chose. Je vous assure que si on répondait aux revendications sociales, ça irait beaucoup mieux dans ce pays. Ça, c'est une vraie question. Et pour l'instant, on débat. Alors, je crois qu'hier, le président de la République va rentrer dans le Guinness Book. Il a battu un record, c'était 8 heures.
8 heures et demie de, 8 heures et demie de débat avec les intellectuels.
En tout cas, de questions-réponses. Oui. Parce que nous débattons. Lui, on lui pose des questions. Là, il y a urgence.
Bon, nous, on a un tout petit peu moins de temps que ça pour parler avec vous, Philippe Martinez. On va reprendre dans une minute pour évoquer les revendications de la CGT en cette journée d'action. Il est 8h40. David Dauba.
Face à un parterre d'intellectuels hier, Emmanuel Macron s'est montré ferme sur les gilets jaunes et les réformes. Durant plus de 8 heures, il a donc défendu la suppression de l'ISF et le non-cumul des mandats. Le chef de l'État qui reconnaît ne pas avoir su répondre aux aspirations des Français qu'il a rencontrés lors de la présidentielle. Des gilets jaunes ont tenté de bloquer cette nuit la raffinerie de Donges. C'est en Loire-Atlantique. Ils ont été délogés peu après 3 heures du matin par la police sans heure particulière. De son côté, Ingrid Levavasseur, figure historique du mouvement, annonce qu'elle ne participera plus aux manifestations. Elle dénonce l'extrême violence qui a émaillé les derniers rassemblements. À ce propos, le gouvernement affiche sa fermeté après les incidents de samedi. Préfet de police limogé, interdiction de manifester dans certains quartiers ou bien encore utilisation de marqueurs chimiques pour identifier les casseurs ont été annoncés. Les manifestations n'y changent rien. Abdelaziz Bouteflika confirme dans un message qu'il va bel et bien prolonger son 4e mandat au-delà du terme constitutionnel du 28 avril. Et puis ils avaient sévi dans la métropole lilloise, vandalisant une quinzaine de boucheries et de commerces de viande. 4 militants véganes comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Lille.
France Info. Toujours avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, dans cette journée d'action que vous lancez. Une journée pour quoi exactement ?
Une journée toujours sur les mêmes thèmes, mais des thèmes qui sont récurrents maintenant. Il y a premièrement la question des salaires. Il y a un problème de salaire dans notre pays. Alors quand je dis salaire, c'est évidemment les pensions pour les retraités et les minima sociaux. Nous devenons un pays de bas salaire. Vous l'entendez dans de nombreux témoignages. On peut travailler et ne pas pouvoir se loger, ne pas manger à sa faim. C'est quand même quelque chose qui est inadmissible. Donc il y a besoin, et là le gouvernement a la main, parce que le MEDEF a des responsabilités, parce que nous trouvons que le MEDEF est beaucoup épargné, mais le gouvernement a la main sur la question du SMIC. Il faut augmenter le SMIC, nous proposons qu'il augmente de 20%. Deuxième chose, c'est la justice fiscale. La fiscalité dans notre pays est inégalitaire, c'est-à-dire parce que j'entends parfois des commentateurs qui disent mais il y a beaucoup de gens qui payent pas d'impôts. Tout le monde paye des impôts dans notre pays.
Par la TVA.
Et vous savez bien que la TVA, elle n'a pas le même impact sur le budget d'un ménage quand on gagne 800 euros ou quand on en gagne 10 000. Donc il faut adapter la TVA, à, par exemple, sur les produits de première nécessité, pourquoi pas la supprimer.
Et puis, Xavier Bertrand, qui n'est pas forcément votre tasse de thé, le patron de la région Hauts-de-France, a dit il faut une TVA nulle sur 100 à 200 produits. Et il a même dit, j'ai appelé tous les patrons des grandes marques, messieurs Leclerc et Bompard chez Carrefour, ils sont prêts à répercuter intégralement cette suppression de la TVA. Vous le suivez là-dessus ?
Enfin, en tout cas, il faut supprimer la TVA sur des produits de première nécessité. Effectivement.
Et être sûr derrière que ça fonctionne dans les rayons. Si c'est pour augmenter la marge des grandes surfaces, ça sert à rien.
Et c'est pour ça qu'il faut des contrôles avec des fonctionnaires, par exemple, qui contrôlent la réalité des décisions du gouvernement. Sur la fiscalité, il faut aussi que l'impôt soit plus progressif pour notamment les très hauts revenus. Alors vous savez bien qu'il est plafonné, mais on pourrait parler des niches fiscales, de l'évasion fiscale, etc. Donc de l'argent, on peut en trouver, y compris pour augmenter les recettes de l'État.
Sur les pensions, vous évoquiez les pensions, le gouvernement envisage de réindexer les retraites sur l'évolution de l'inflation. C'est une bonne mesure, une bonne chose ?
Vous savez, le gouvernement envisage tellement de choses sans jamais les appliquer que, en tout cas, nous revendiquons que les pensions soit colle à l'augmentation des salaires.
Des salaires, oui. Oui, pas des prix, ce qui serait donc des augmentations supérieures à celles...
Vous avez tout compris. Oui.
Sur le plan fiscal, vous réclamez donc une tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. Oui. On a vu apparaître aussi cette revendication à l'occasion du grand débat.
Oui, mais vous savez, on n'est pas en dehors des réalités des citoyens. Il y a besoin que ceux qui gagnent... vous savez que l'impôt sur le revenu est plafonné, il faut que ceux qui gagnent plus payent aussi en fonction de leurs revenus. Mais
À partir de quel niveau de revenu ?
J'ai pas les barèmes des impôts en tête, excusez-moi. Mais en tout cas, il faut déplafonner ce niveau.
C'est-à-dire imposer jusqu'à combien, à votre avis, aujourd'hui, de mémoire, c'est 40%,
c'est 41%, le taux me maximum, semble-t-il. Voilà. Il faut aller au-dessus de 45% pour des revenus qui doivent être... je pense largement au-dessus de 15 000 euros, me semble-t-il.
Vous le disiez vous-même, Philippe Martinez, ce sont toujours les mêmes revendications que vous portez sur le pouvoir d'achat, sur les services publics. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté rituel un petit peu dans ces journées d'action ? La dernière, c'était au mois de février. Prochaine, ce sera au mois d'avril. Et quand vous voyez, par exemple, ce qu'ont pu obtenir les gilets jaunes, notamment en cassant, est-ce que vous vous dites pas, pour certains d'entre eux en tout cas, que le mode d'action de la CGT est peut-être un petit peu obsolète ?
Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font, les gilets jaunes ? Ils se mobilisent, ils se rassemblent.
On a vu qu'au mois de décembre, le gouvernement a lâché 10 milliards.
Rassemblent, ils manifestent, ils revendiquent. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On se rassemble, on manifeste.
Et ils ont obtenu 10 milliards, là où vous n'avez rien obtenu depuis le début du quinquennat.
Écoutez, vous voulez qu'on fasse le point sur la grève des cheminots ?
Qu'est-ce que vous avez gagné au final à la fin
milliards.
De la grève des cheminots ?
35,
le rachat de la dette, vous
35
voulez dire.
Milliards. Mmh. Bon.
Mais la réforme,
ça veut dire que la bonne vieille grève...
Mais est-ce que les... Mais,
elle marche encore.
Attendez. La grève, elle marche encore dans tous les pays où c'est autorisé. Et c'est pour ça qu'il faut la préserver. Mais personne, pour l'instant, n'a obtenu ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser plus largement, parce qu'il y a encore trop de citoyens, je les comprends, qui hésitent. Vous savez, faire grève quand on n'a pas assez pour boucler sa fin de mois avec son mois complet, perdre une journée, c'est difficile. Quand on est précaire, faire grève, c'est difficile. Il faut certainement inventer d'autres formes, et nous y sommes attentifs. Mais il se passe tous les jours des choses dans les entreprises. Ça se voit moins, on en parle moins. Mais vous le savez bien, il y a des grèves, vous avez entendu parler d'un certain nombre d'entreprises où il y a des mobilisations.
Comment expliquez-vous justement que les gilets jaunes, eux, ne s'en prennent pas aux entreprises, ils ne se tournent pas vers les chefs d'entreprise ?
C'est là où les contacts sont importants. Parce que certainement que nous, il faut aussi qu'on explique un certain nombre de choses. Je prends par exemple les cotisations sociales. On a eu des débats avec les gilets jaunes sur... ils parlaient de charges et il fallait supprimer toutes les charges. D'ailleurs, le patronat s'était engouffré dans cette brèche. On explique que dans un salaire, il y a le salaire différé. Quand on paye des cotisations, comme les employeurs d'ailleurs, ça sert pour mieux soigner, ça sert pour la retraite, vous voyez. Donc ça permet des débats. Et c'est vrai que le patronat est épargné. Or... l'évasion fiscale, c'est qui ? La fraude fiscale, c'est qui ? Les très 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 hauts salaires, c'est qui ?
Donc vous incitez les gilets jaunes à se tourner vers le patronat ?
Dans leurs entreprises, à se mobiliser dans leurs entreprises. C'est pour ça que nous disons, il sait bien de manifester le samedi, parce que ça permet d'élargir, et on l'a vu samedi autour du climat, où il y avait des convergences de revendications sociales avec des revendications climatiques, et nous sommes très attachés aux questions environnementales, mais en même temps, la semaine, il faut aussi agir pour tous ceux qui le peuvent.
Encore un tout petit mot sur les gilets jaunes. Vous pensez que Christophe Castaner aurait dû présenter sa démission ?
En tout cas, il est largement responsable. Alors, je ne suis pas au fait d'un certain nombre de choses, mais il est, quand on est ministre de l'Intérieur, on est responsable d'un certain nombre de choses en termes de sécurité. Et je pense que le préfet... à bon dos.
Il a expliqué ce matin chez nos confrères de France Inter que le préfet de Paris avait désobéi à ses ordres.
Ah bah, écoutez, moi je suis pas dans les secrets de Monsieur Castaner.
Donc c'est normal qu'on limoge le préfet de police et qu'on garde
le
ministre de l'Intérieur.
Moi j'ai pas dit ça.
Non, enfin, non mais c'est ma question.
Le fusil, vous savez, ça marche depuis, il paraît que ça marche depuis la nuit des temps. Et pour un président de la République qui voulait inventer un monde nouveau, une autre façon de faire de la politique, de temps en temps, il a un livre de recettes qui est quand même assez usagé.
Et est-ce que vous considérez, Philippe Martinez, qu'il faut autoriser de nouveaux rassemblements samedi prochain, y compris d'ailleurs sur les Champs-Élysées ?
Mais il faut autoriser les manifestations.
Sur les Champs-Élysées aussi ?
Il faut autoriser les manifestations là où elles sont décidées. Il faut on ne peut pas.
Ce ne sont pas des manifestations déclarées.
Nous, on a une pratique.
Vous déclarez vos manifestations, Philippe Martinez. Celle de samedi dernier sur les Champs-Élysées ne l'était pas.
On déclare nos manifestations.
Vous l'avez toujours fait. Vous n'êtes jamais allé à une manifestation non déclarée.
Ça m'est arrivé plusieurs reprises parce que ça ne peut pas être du seul ressort du préfet. Enfin, c'est le préfet qui va décider quand les manifestations peuvent se tenir. Si un jour il dit non, aujourd'hui c'est pas un jour de manifestation.
Donc là, même non déclaré, samedi prochain. Vous soutenez l'idée d'une manifestation sur les Champs-Élysées.
Nous soutenons l'idée que on ne doit pas interdire de manifester. Après, ce qu'il se passe en marge des manifestations, et je vous l'ai dit déjà en débutant l'émission, c'est du ressort de la police. Et quand je dis la police, c'est préfet et ministre. Et nos manifestations, on s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur des cortèges. Et malheureusement, parfois, des ordres sont donnés pour venir nous bousculer à l'intérieur de nos cortèges. Je l'ai vécu à plusieurs reprises.
Dans un instant, on va évoquer un autre dossier brûlant de cette année, c'est la réforme des retraites, avec la petite phrase ce week-end de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Mais d'abord, le rappel de l'info, si vous nous rejoignez à 9h10 d'ailleurs, c'est avec David Dauba.
Sur France Inter ce matin, Christophe Castaner affirme que les consignes qu'il avait données n'ont pas été appliquées samedi sur les Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur ajoute n'avoir jamais pensé à démissionner. Dans ce contexte, le gouvernement apporte une réponse aux échauffourées de samedi. Conséquence, le préfet de police de Paris est purement et simplement renvoyé. Il sera remplacé par l'ancien préfet de la région Aquitaine. Pour l'opposition, cette mesure consiste à faire sauter un fusible. Nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel de la CGT, FO, Solidaire, encore la FSU, elle devrait être particulièrement suivie, notamment dans l'éducation nationale. 200 manifestations prévues un peu partout en France. Les enquêteurs néerlandais cherchent toujours à comprendre les motivations de l'homme qui a ouvert le feu hier dans un tramway. 3 personnes tuées, 5 autres blessées. La piste terroriste est privilégiée, mais celle d'un différend familial n'est pas encore totalement écartée. Et puis il replonge après 3 années de pause. Florent Manaudou annonce son retour à la compétition. Il le dit dans le journal L'Équipe et il espère faire donc son retour pour les JO de Tokyo. Ce sera l'année prochaine.
France Info. David Dauba, et bravo David Dauba, l'homme qui continue les titres, même quand on parle juste à côté de lui. Philippe Martinez, on va écouter ce qu'a dit donc Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui s'est prononcée à titre personnel pour qu'on travaille plus longtemps avant de partir à la retraite.
Alors, la question de l'âge du départ à la retraite, vous l'avez compris, est sans arrêt sur la table, à gauche comme à droite. Je ne suis pas hostile, pourquoi ? Je suis médecin. Alors je vais être honnête, je suis médecin. Je vois que la durée de vie augmente d'année en année. Elle augmente moins vite ces dernières années, mais elle a considérablement augmenté.
C'est un ballon d'essai pour vous ?
C'est quelqu'un qui est en dehors des réalités. Moi, j'invite Madame Buzyn à aller faire un stage d'un mois en EHPAD, à la place des personnels. et elle verra si on peut avoir des soignants âgés, aussi âgés que les résidents. Enfin, il faut être complètement en dehors des réalités du monde du travail pour pouvoir dire des sottises, et je suis poli, comme ça.
Pour vous, toucher l'âge légal du départ en retraite, c'est inacceptable, inenvisageable.
Tous les salariés de ce pays devraient pouvoir partir à la retraite à 60 ans avec un niveau de pension suffisant pour vivre dignement. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est plus on recule l'âge de la retraite, et plus on remet en cause, y compris le niveau des pensions. Et donc, l'enjeu, il est là. C'est quand on a travaillé toute sa vie, et il y a des carrières qui sont à partir de 37 ans, 40 ans de carrière, c'est long, eh bien, on devrait pouvoir partir. Ceux qui veulent continuer, personne ne les oblige à s'en aller. Mais ceux qui veulent s'arrêter devraient pouvoir s'arrêter et avoir un niveau de pension suffisant pour vivre.
Si c'est le cas, Philippe Martinez, pourquoi tous nos voisins ont aujourd'hui un âge légal de départ à la retraite qui avoisine, on ne va pas rentrer dans le détail, mais à peu près les 65 ans. L'Allemagne vient même de le repousser à l'avenir à 67 ans.
Parce qu'on a les mêmes gouvernements. Mais moi, je côtoie des syndicalistes qui disent « c'est plus possible, c'est plus possible ». Et puisque vous citez l'Allemagne, un pays voisin qui est souvent cité en référence.
L'Espagne aussi, c'est 65 ans.
Écoutez, la moitié des salariés en Allemagne, avec les zéro, les mini-jobs, etc., sont obligés de travailler parce qu'ils ne peuvent pas manger. Enfin, vous avez entendu parler de gens qui dorment dans les voitures, vous les voyez certainement, ceux qui dorment dans la rue. C'est pas par choix qu'ils font ça. C'est la réalité. Et dans tous les pays du monde, enfin, en tout cas, européens, c'est la même chose.
Mais est-ce que ce report un peu partout en Europe est pas lié aussi au fait, Philippe Martinez, que partout en Europe, l'espérance de vie aussi, elle s'allonge?
Mais ça n'a rien à voir avec
cet argument, vous l'entendez
premièrement,
pas?
Premièrement, il faut parler d'espérance de vie en bonne santé. Parce qu'on peut avoir 70 ans et pas être en forme. Surtout quand on a eu des métiers pénibles. Demander à des salariés du bâtiment s'ils sont en pleine forme après avoir soulevé des charges, etc. Donc, il faut être ancré dans les réalités du travail. Pas faire de la théorie comme ça quand on est dans un bureau.
Quand vous dites qu'il faut tenir compte effectivement des situations, de la pénibilité de certains métiers, ça veut dire qu'il faudrait mieux distinguer justement selon les professions et plutôt que d'avoir un âge global qui s'applique
Il faut remettre l'âge légal de départ en retraite à 60 ans avec, j'insiste là-dessus, avec une pension qui permette de vivre. Et puis, pour les travaux pénibles, descendre à 55 ans, voire 50 ans. J'ai eu l'occasion d'aller dans les égouts avec les égoutiers. Ils ont 10 ans d'espérance de vie que moins que les autres, parce que vous connaissez. Je vous invite à le faire, d'aller passer une heure. Oui, pas toute sa vie. Ben vous verrez que c'est pas volé de partir en retraite un peu plus tôt.
Vous citez des professions qui sont particulièrement pénibles, que ce soit celle des égoutiers ou celle des personnes qui travaillent dans les EHPAD. Est-ce que les gens qui ont des professions des cadres, je pense notamment, pourraient, s'ils le souhaitent, travailler plus longtemps? Pourquoi ça vous fait rire, ce que
parce
je
que
dis
parce que on dirait que les cadres sont des privilégiés. Non, vous savez que
par rapport aux dans les conditions non, de travail, non, non, en tout cas mais, au quotidien,
il entre... y a plusieurs types de dégradation de conditions de travail. Et vous le savez très bien. Il y a le physique, et puis il y a l'intellectuel.
Il y a la surcharge aussi.
Vous avez entendu parler de burn-out, de suicide.
Oui.
Moi, je viens de chez Renault. Vous le savez, je travaille chez Renault. Dans mon établissement, c'était des cadres et des techniciens parce que la pression du travail, etc. Ça existe aussi. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on doit pouvoir partir à 60 ans. Ceux qui veulent travailler plus longtemps, personne ne les oblige à partir. Mais ceux qui souhaitent s'en aller, ils doivent pouvoir partir à 60 ans avec, j'insiste là-dessus, de quoi vivre. Parce que des retraités qui continuent à travailler, bien souvent, c'est parce que, et il y a eu beaucoup, c'est l'intérêt de ces mouvements sociaux, c'est qu'on fait des reportages, et on explique que on n'arrive pas à vivre avec sa retraite. Les retraités ne sont pas des privilégiés, il faut arrêter avec ça.
Il y a un autre dossier sur lequel, Philippe Martinez, les partenaires sociaux avaient la main et puis ils l'ont perdu, c'est la réforme de l'assurance chômage.
Vous parlez comme Monsieur Macron, c'est marrant.
Je ne sais pas comment je dois prendre ça.
Pourquoi vous dites que vous avez perdu la main?
Le fait est qu'en tout cas, effectivement, les partenaires sociaux devaient se mettre d'accord sur une réforme de l'assurance chômage. Ils n'y sont pas parvenus et l'État reprend la main de fait puisqu'il s'engage à légiférer.
Quand vous avez à résoudre un problème mathématique, on vous donne un énoncé et vous trouvez la solution.
Allez-y, parce que moi je suis nul en mathématiques.
Moi aussi, allez-y. Mais ça, j'ai
retenu
ça.
Vous ne pouvez pas tout faire, Nodélie, j'ai parlé comme Emmanuel Macron.
Eh bien là, Monsieur Macron, il nous donne la solution et il nous dit d'écrire l'énoncé. Qu'est-ce que c'est? Il nous dit qu'il faut faire 4 milliards d'économies, débrouillez-vous. C'est une façon de négocier, ça?
Entre 3 et 4 milliards par an, sur les 3 ans.
Oui, sur 3 ans, 4 milliards.
Vous voulez dire qu'il vous a donné une feuille de route absolument impossible à tenir et du coup, tout ça était voué à l'échec.
Ils nous disent ce qu'il faut faire.
Il ne faut pas faire d'économies pour l'assurance chômage, d'après vous?
Non.
Pour sauver le système d'assurance chômage?
Mais il y a plus de 50% des chômeurs qui ne touchent rien. On va faire des économies sur quoi? Mais vous croyez que les chômeurs sont des privilégiés comme
donc il n'y a pas besoin de taxer les entreprises qui abusent des contrats courts pour
c'est
financer l'assurance chômage.
C'est autre chose. Oui.
C'est la même chose. C'est aussi pour renflouer le système
d'assurance
chômage.
Non, c'est pas faire des économies, ça. C'est être équitable. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui abusent des contrats courts. C'est la ministre du Travail qui a dit on revient au temps des journaliers. Vous voyez ? Eh bien, oui, il faut taxer les entreprises et notamment les grandes. Parce que nous proposons que ça soit les plus grandes qui soient taxées. Parce que, en général, les grandes entreprises prennent les marchés et puis après délèguent à la sous-traitance en leur disant vous débrouillez comme vous voulez. Et donc, ça a des conséquences sur les petites entreprises. Donc, oui, il faut taxer. Et puis, il faut remettre en place des cotisations pour les entreprises. À quoi servent toutes ces exonérations, si ce n'est à reverser 57 milliards d'euros aux actionnaires des entreprises du CAC 40.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, était ce matin l'invité de France Info. Je le remercie. Merci à vous, Renaud.
Merci
dans une
vous.
Minute,
merci.
Il sera 9h.